Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Journée marquée certainement par une histoire humaine, une histoire personnelle, celle d'Amélie, Amélie Champagne, son père qui a témoigné à différents médias, qui a fait une tournée d'entrevues un peu partout, qui est le président du groupe Jean Coutu, mais ça ne change rien, qui dans ce cas-ci est un père vraiment là renversé de ce que sa fille a vécu. Deux histoires que ça raconte. La difficulté des gens qui ont la maladie de Lyme à avoir accès à des services de santé, ça a été son cas, au point de vivre avec la maladie et d'en devenir anxieuse, déprimée, etc. Et là, lorsqu'elle est devenue, lorsqu'elle a eu des tendances suicidaires, a eu besoin d'aide en santé mentale, l'inhumanité du système, là, l'incapacité du système en matière de santé mentale, d'assurer des suivis, de prendre en charge les gens, la bureaucratie qui triomphe et finalement cette jeune femme qui s'est enlever la vie. On en reparlera. Tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
Qui est dans les studios de Cube Radio. Salut Mario.
Bonjour.
Donc, le chef de la coalition Avenir Québec, donc qui est à Sept-Îles, qui présentait donc un projet de éolien avec les Inuits, là, je corrige, parce que j'avais dit les Inuits. Donc, parlons évidemment de campagne électorale. Il y a évidemment un sondage. Il faut en parler de ce sondage-là parce qu'il est quand même important. En ce qui concerne les tendances, là, il y a une tendance, la CAQ, donc, qui a atteint un sommet, baisse quelque peu, mais c'est surtout qu'au niveau de l'opposition, là, ça se cristallise, ça se bouscule, là, à peu près tous au même niveau, là.
Ben, c'est-à-dire qu'on parlait d'une lutte à trois pour l'opposition officielle, ni plus ni moins, ouais. Qui se transforme en lutte à quatre, parce que là, véritablement, le Parti québécois a rejoint le peloton. C'est certain que quand on comprend mieux la répartition du vote par comté, parce qu'ils sont concentrés à Montréal, beaucoup, là, Québec solidaire et le Parti libéral, on semble avoir des chances bien meilleures de former l'opposition officielle, l'un ou l'autre. Mais quand même, là, t'as quatre partis qui se retrouvent dans le même peloton. Bon, encore, quand on vient de voir le vote francophone, évidemment, dans le vote francophone, là, il n'y a plus le même peloton. Le Parti libéral n'est plus du tout, dans la course. Ça, c'est la catastrophe pour Mme Anglade, là. Hors du Grand Montréal, chez les francophones. Dès qu'on sort de Montréal, dès qu'on sort du vote non francophone montréalais, pour le Parti libéral, c'est absolument épouvantable. La remontée du PQ, ben, qu'on le veuille ou non, on se pose une double question. Est-ce qu'il est trop tard pour Paul Saint-Pierre Plamondon? Mais en même temps, on sait que les fins de campagne, le dernier week-end, sont parfois des accélérateurs, là, où des gens indécis joignent la parade de celui qui est déjà en montée. Donc, est-ce qu'il pourrait bénéficier de ça? Puis, la question parallèle, c'est est-ce que, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, les nouveaux appuis qu'il pourrait récolter vont être étendus la grandeur du Québec, n'amenant pas de siège, amenant des meilleurs pourcentages partout, mais pas de siège, ou est-ce qu'il va réussir à avoir certains territoires, là, certaines zones dans l'est du Québec, où, oups, là, la remontée des appuis se concrétise avec quelques sièges?
Et dans quel parti il va aussi chercher ses nouveaux appuis? Ça aussi, ça risque d'être intéressant.
C'est une autre question. Ce qu'on comprend, c'est qu'il va en chercher un peu à la CAQ, un peu à Québec solidaire, un peu parmi les indécis. Là. C'est ce que je décode.
Bon, les 55 ans et plus, massivement, c'est 1 sur 2, je crois, là, qui vote pour la CAQ.
Ouais, exactement. Ce qu'il faut dire dans ce groupe d'âge-là, c'est qu'ils votent, là. Traditionnellement, on disait c'est le Parti libéral qui était numéro un pendant des années, je devrais dire pendant des décennies, c'est le Parti libéral qui était numéro un dans ce groupe d'âge-là. Et c'est ce qu'il faisait. Tu sais, des fois, on parlait de prime à l'urne, puis du Parti libéral qui sortait son vote, mais c'était aussi que le vote plus âgé est plus discipliné, les gens trouvent ça plus important d'aller voter, on met ça à l'agenda, on le rate pas, ou tu sais, on va pas oublier d'aller voter parce que qui arrive une petite affaire dans la journée, alors que il semble bien, là, si on se fie aux dernières élections, plus les gens sont jeunes, plus la probabilité qu'ils aillent pas voter, ou finalement, ils avaient pensé aller voter, mais là, il est arrivé quelque chose durant la journée, ils ont oublié, ou ils ont laissé tomber. La probabilité est plus élevée. Les taux de participation sont nettement plus faibles chez les jeunes que chez les gens plus âgés. Alors ça, c'est dans le sondage, le côté qui est quand même rassurant pour la CAQ. Même s'ils perdent quelques plumes au fil des semaines, ils gardent une confiance dans un électorat de 55 ans et plus. D'ailleurs, on peut penser, Sylvain, que l'incroyable, très, très fort vote par anticipation, jamais vu, là, sans précédent, il y a probablement, là, on n'a pas les âges, évidemment, mais on peut, pour avoir vu certaines files d'attente, là, il y avait pas mal de gens de 55 ans et plus dans les files d'attente. Alors, on peut penser que la machine de la CAQ a fait sortir son vote, là.
Oui, mais il est clair aussi qu'on voit une cassure là entre générations. Ouais. Les 55 ans et plus vont la CAQ et les 18-34, c'est vraiment Québec solidaire qui est en tête, là. Mais ils vont moins voter, effectivement.
Oui, absolument. Oui, non, on s'entend qu'il y a toujours eu ça. Hein. Moi, quand j'étais dans les jeunes libéraux quand j'étais au cégep, on n'était pas nombreux, là. À l'époque, les jeunes, c'était péquistes, là. Il y avait deux partis, puis les jeunes, c'était péquistes, c'était ça. Les jeunes, c'était souverainistes, c'était oui au référendum, puis c'était péquistes. Alors, tu sais, les époques changent, mais c'est pas nouveau. D'une époque à l'autre, c'est pas nouveau que le vote des jeunes soit différent, là, nécessairement du reste de la population.
Parlant de souveraineté, justement, ça a été abordé aujourd'hui. Question de l'urne, dit Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du PQ. Même François Legault qui revient avec l'inévitable question. Est-ce que c'est viable? Oui, c'est viable.
Ouais. Maintenant, sur la question de l'urne, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui nous avait habitués et qui a marqué des points jusqu'à maintenant en ayant un langage simple, clair et réaliste, là, pas cette fois-ci, là. Je pense pas que la souveraineté, c'est beaucoup la question de l'urne. Peut-être pour certains, peut-être que lui va rejoindre certains électeurs péquistes pour qui ça devient une question du cœur de dire, ah, ben, je veux qu'il y ait quelques députés péquistes à l'Assemblée nationale pour que le lampion reste allumé, là, t'sais, que le réverbère de la souveraineté reste allumé à l'Assemblée. Ça peut être la question de l'urne pour quelques électeurs, mais c'est pas la question de l'urne pour la masse dans cette élection-ci qu'on est pour ou contre la souveraineté.
Pour les souverainistes, finalement, qui sont actuellement dans d'autres partis.
Peut-être.
Qui, leur demandent, finalement, de revenir.
Quant à la question de François Legault, j'ai sincèrement été étonné que des journalistes ou que quelqu'un pose ça. Sincèrement, il me semble que ça se pose plus. Robert Bourassa avait déjà dit un Québec souverain serait viable. Je veux dire, voyons, Québec, y a-t-il encore des gens au Québec avec la richesse qu'on a, la caisse de dépôt qui vaut je sais plus combien de centaines de milliards, 400 milliards, avec Hydro-Québec? Y a-t-il vraiment encore des gens qui pensent, tu sais, la question est de savoir est-ce que ce serait mieux ou moins bon un Québec souverain. Mais de penser que ce serait pas économiquement viable, que ça ferait faillite. Je veux dire, y a du monde qui pensait ça dans les années 60, 70, mais puis aujourd'hui, je veux dire, personnellement, je serais tenté de te dire, moi, là, mets entre les mains d'un parti plus à droite comme l'ADQ jadis un Québec souverain, puis 10 ans après, on serait plus riche que le reste du Canada. Là. Donc, la question de la viabilité économique est plus en jeu. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on veut faire ça? Est-ce qu'on veut mettre de l'énergie là-dedans?
Ouais, c'est ça.
Est-ce que c'est ça la priorité des Québécois à ce moment-ci? Mais je pense plus qu'il y a de gens, même les libéraux reconnaissent qu'un Québec souverain...
Au premier référendum, c'était la question.
Mais je me souviens d'avoir entendu Robert Bourassa dire, ben non, il y a pas un Québec souverain serait viable économiquement. C'est pas... Quand on demande ça en 2022 à François Legault, ça m'a sincèrement un petit peu étonné.
Bon, les vols de dépliants maintenant. Il n'y a pas juste Québec solidaire, mais il y a aussi des bénévoles du PQ là, qui prennent à la CAQ dans Masson cette fois-ci.
Ouais, hey, là, t'as des vols de dépliants, des bris de pancartes, tout ça, c'est du taponnage. Tant que c'est des bénévoles, là, t'sais, on dit aux organisations électorales, t'sais, donner des directives à vos bénévoles de se conduire comme du monde. Ce qui, t'sais, là où c'était la catastrophe pour Québec solidaire, c'est que la candidate elle-même soit filmée, une avocate soit filmée. Mais, t'sais, j'ose espérer que les partis, t'sais, ça, sérieusement, là, penses-tu vraiment que tu changes le résultat d'une élection à briser la pancarte de l'autre ou à arracher une pas du cake dépliable? C'est pas glorieux, là. Fait que j'espère que tout le monde va sortir de... Toutes les organisations vont dire à leurs bénévoles de sortir de ces stratégies-là.
Ouais, Mario, on va écouter un petit extrait d'une entrevue d'Éric Duhaime qui, on veut pas qu'on le compare à Donald Trump, mais qui laisse entendre qu'il aimerait ça avoir un mur à la frontière. Écoutez ça.
Vous aviez déjà parlé en 2017 sur l'immigration, M. Duhaime, de l'importance de construire un mur entre le Canada et les États-Unis. Ça me paraît être un investissement raisonnable pour colmater à court terme les brèches de nos frontières passoires. Croyez-vous toujours que c'est une bonne idée de construire un mur entre le Canada et les États-Unis?
D'abord, je suis scandalisé de voir ce qui se passe au chemin Roxham. Il faut trouver une façon de fermer le robinet. Là, vous mentionnez une façon, il y en a plein d'autres, mais il faut fermer le robinet, il faut fermer la frontière d'une façon ou d'une autre.
Et un mur ou pas?
Mais ce que je vous dis, c'est qu'il faut trouver une façon de fermer le robinet.
Alors, Mario, mieux gérer la frontière, oui, mais un mur?
Mais je suis étonné, là. Sincèrement, j'avais pas vu l'extrait. J'avais entendu des gens le raconter, j'avais vu sur les réseaux sociaux, mais j'avais pas encore entendu l'extrait. Je suis quand même étonné là, qu'il n'ait pas été plus clair et plus ferme. Là. Je pense pas... Tu es vraiment quelqu'un qui veut construire un mur entre le Canada et les États-Unis, ou même qui veut laisser cette hypothèse-là ouverte. Je sais pas. J'ai l'impression que dans les prochaines heures, il va se raviser puis qu'il va préciser sa pensée puis dire qu'il n'y a pas question de mur. Je vois pas l'intérêt pour lui de laisser courir cette idée-là, parce que là, je veux dire, Sylvain, ça n'a plus de fin. Là. Une fois que tu laisses entendre qu'un mur pourrait exister, c'est qui paye le mur, combien va coûter le mur, quelle sorte de mur, quelle forme de mur, quelle hauteur de mur, quel matériau de mur. Je suis étonné. Là. J'entends l'extrait, puis j'avoue que je suis moi-même étonné. Je me disais, comment il a, j'avais pas compris de quelle façon il avait laissé cette histoire-là flotter. Mais je vois qu'il a vraiment voulu dire, ouais, il y a ce moyen-là, il y a d'autres, mais il n'a pas voulu exclure là, qu'il n'y ait pas question. C'est, je pense que c'est un bel exemple, parce qu'il l'a fait sur d'autres dossiers, de dire, il y a des choses que j'ai dit comme animateur de radio, mais attends un peu, là, je suis rendu chef d'un parti, puis je défends... Puis c'est correct, ça, je respecte ça, je défends les positions maintenant d'un parti politique. C'est pas dans son programme de parti, d'ailleurs, du tout, l'histoire d'un mur. Alors, je suis étonné qu'il n'ait pas rejeté ça carrément du revers de la main. D'après moi, il va le faire dans les prochaines 24 heures.
Ouais. On va voir au cours des prochaines heures. Merci, Mario.
Au revoir.